Très bien.
Bonsoir à tous, et nous voilà tous présents avec un grand sourire pour la dernière émission de la saison. On va terminer ce soir ensemble la quatrième saison. Ben, voilà, petit à petit, on avance. Quand je dis ça, c'est toujours avec une petite pointe de nostalgie. Et pour terminer, en vous laissant des devoirs de vacances, on a fait venir une grande société de gestion assez connue. Et surtout, on va développer un point technique beaucoup, beaucoup moins connu. Donc, concentrez-vous, montez le son et écoutez bien. Et de toute façon, comme d'habitude, vous faites remonter des questions en direct si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais on va tous faire attention à ce que ce soit bien clair et qu'on aille, comme on dit, step by step pour que tout le monde comprenne. Donc, j'accueille Zacharia Darwish et Antoine Marchetto de CPRAM. Donc, ils sont venus en force, ils sont venus à deux. Antoine va commencer à nous développer un petit peu sur CPRAM, quelle est cette société, et après, ce sera au tour de Zacharia. Ben, Antoine, c'est à vous.
Écoute, merci beaucoup Bernard. Alors tout d'abord, CPRM, effectivement, peut-être un peu moins connu que le groupe Amundi à laquelle nous appartenons, puisque CPR est une filiale indépendante à 100% détenue par le groupe Amundi, filiale à taille humaine, hein, puisqu'on est environ une centaine de collaborateurs avec une grande expérience de plus de 30 ans, 30 ans en France qu'à l'international, et une société de gestion qui est diversifiée sur toutes les classes d'actifs, à savoir bien entendu les marchés de taux, hein, que ce soit le monétaire, l'obligataire, également les gestions diversifiées, les gestions actions, qu'elles soient quantitatives ou plus thématiques, hein, on est assez connu dans cette dimension des actions thématiques, et puis une société de gestion diversifiée à la fois avec sa clientèle, hein, qu'elle soit institutionnelle ou via les distributeurs, également les entreprises, et puis une société de gestion d'une belle taille, hein, puisqu'on totalise environ 60 milliards d'euros d'encours sous gestion. Alors effectivement, comme tu le disais, Bernard, on est là aujourd'hui pour parler de nos spécificités, notre savoir-faire sur les gestions de taux. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Zacharia, notre expert sur tout ce qui est gestion obligataire et notamment liée au risque de crédit, ce qu'on appelle communément les spreads. Et donc, je vais peut-être laisser la parole à Zacharia pour développer cette expertise.
Bonsoir
Bonjour.
Zacharia, on vous écoute.
Bonsoir Bernard, merci pour l'invitation. Présente en deux mots, donc Zacharia Darwish, je suis responsable de l'équipe solutions d'investissement spécifique sur les taux et le crédit. Chez CPR, on gère environ une vingtaine de milliards d'euros là-dessus, et plus spécifiquement sur trois grands axes. Un, c'est lié à tout ce qui est besoin de clients spécifiques, c'est-à-dire lié à leur engagement, donc on retrouve des assureurs, des choses comme ça. Un deuxième axe qui reflète globalement notre point de vue sur le marché, donc on travaille sur nos scénarios de marché et on va trouver des fonds patrimoniaux de performance absolue qui vont implémenter ces vues-là. Et puis un troisième axe, celui-là sur lequel on va retrouver des expertises, dire ce qui permet d'avoir accès à des segments de marché avec une certaine spécificité. Et donc
Et tout
aujourd'hui,
ça à l'intérieur d'un même fonds?
alors ces trois expertises-là sont dans trois typologies de fonds différentes. C'est-à-dire que dans le premier, on va retrouver donc là où on répond à des besoins, par exemple d'assureurs, des besoins de caisses de retraite, on va avoir des investissements qui vont être plus guidés par ce passif ou par ces engagements de ces clientèles-là. Sur le deuxième axe, l'axe de performance absolue, on va trouver derrière plutôt une clientèle qui va venir chercher une vue de marché, une conviction macroéconomique ou une conviction au niveau des positions qu'on va trouver dans le portefeuille des entreprises dans lesquelles on investit. Et puis le troisième axe, c'est l'axe qui permet en fait d'accéder au marché du crédit de façon spécifique, de façon, si je puis dire, la plus optimale et la plus optimisée possible. Par exemple, un des axes qui est intéressant de développer, c'est l'axe de l'investissement via des indices de crédit pour avoir un accès liquide au marché du crédit. On sait d'habitude que investir sur le marché du crédit, c'est un marché qui est, rappelons-le, n'est pas un marché listé, pas comme des actions sur la bourse. C'est principalement un marché, ce qu'on appelle OTC, de gré à gré. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes électroniques pour acheter et vendre des obligations, mais au final, en fait, en termes de fonctionnement, cela revient à décrocher son téléphone et appeler son banquier ou sa contrepartie et essayer de négocier un prix. Et donc, dans ce cadre de marché-là, un des points vraiment importants pour un investisseur, que ce soit un investisseur, on va dire, particulier ou un investisseur institutionnel ou, on va dire, professionnel, eh bien, c'est le côté de la liquidité. C'est-à-dire, si j'achète quelque chose, est-ce que je peux la revendre? Si j'achète une obligation, est-ce que je peux la vendre? Un, deux, à quel prix je vais pouvoir l'acheter, à quel prix je vais devoir la vendre. Et donc cet aspect de liquidité, nous l'adressons à travers une expertise spécifique qui est sur ce qu'on appelle le marché des indices de crédit. Et ce marché-là permet justement d'avoir un accès avec une liquidité qui est beaucoup plus élevée qu'on va retrouver sur un marché obligataire plus classique.
Très bien.
Si on veut développer un peu plus là-dedans, c'est que pour donner une idée de comment ça fonctionne, eh bien, en fait, la petite astuce, si je puis dire, c'est que, en gros, il y a deux façons pour s'exposer au risque d'un émetteur. Donc, la première façon, si je suis intéressé par une société lambda, j'achète les obligations, donc la dette de cette entreprise-là, de telle façon à financer cette entreprise. Et du coup, donc j'ai une rémunération par rapport à cela, une rémunération qui est due d'une part au taux d'intérêt, qu'on connaît aujourd'hui qui sont élevés, et d'autre part, une prime de crédit, on appelle un spread de crédit, et qui me rémunère le risque que je prends sur cette entreprise-là. Là, c'est le fonctionnement d'une obligation classique. Aujourd'hui, avec les indices de crédit, on utilise ce qu'on appelle des assurances, c'est-à-dire, globalement, plutôt que d'aller acheter une obligation d'une entreprise, je garde mon cash, je l'investis sur des instruments qui sont plus courts sur le marché monétaire. Si on regarde la courbe des taux d'intérêt aujourd'hui, elle fait que on est payé pour attendre, c'est-à-dire que la partie monétaire, c'est la partie qui paye le plus sur la courbe des taux d'intérêt. Et je combine ça avec une vente d'une assurance, de défaut sur l'émetteur. Et en fait, cette prime d'assurance que je vais collecter, eh bien, ça revient, économiquement ou financièrement parlant, à la même chose que d'acheter une obligation de cette entreprise. Donc, plutôt que d'acheter l'obligation de l'entreprise, j'assure contre le risque de défaut de cette entreprise-là. Et donc, si financièrement, d'un point de vue purement financier, c'est équivalent, eh bien, d'un point de vue très pratique, c'est beaucoup plus liquide et ça me permet, d'une part, d'avoir cette liquidité de marché-là, et d'autre part, de ne pas être lié pour aller, si je prête à une entreprise à 5 ans, eh bien, je prends ce qu'on appelle un risque de taux sur 5 ans. Eh bien, avec cette fonctionnalité-là, avec ce montage-là, ça me permet de ne pas être lié à ce taux d'intérêt-là en ce moment.
Alors, je vous arrête, mais vous avez quand même un risque de taux si jamais les taux courts baissent.
Alors, le risque que l'on a, c'est que, en fait, on ne verrouille pas un niveau de taux d'intérêt. C'est pas tellement, enfin, c'est un risque dans le sens où si le taux d'intérêt court baisse aujourd'hui, je vais pas en profiter. Je profite des intérêts que je gagne, tels que si je place sur un livret d'épargne dans ma banque, réglementé ou non, un livret A, eh bien, en fait, je gagne des intérêts au fur et à mesure, mais si le taux de ce livret ou les taux d'intérêt sur le marché monétaire baissent, eh bien, bah, j'aurai le taux monétaire à ce moment-là. Donc, la question, effectivement, la question est très pertinente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question auquel on peut se poser, est-ce que on doit aller verrouiller des taux d'intérêt qui sont plus bas, mais je sais que, par exemple, pour donner des exemples très chiffrés, le 10 ans français, l'OAT française, elle paye 3%, un petit peu plus aujourd'hui aux élections de ce week-end. Mais est-ce que je dois aller verrouiller ces 3% sur 10 ans? Et là, je suis sûr que je vais toucher 3% tous les ans sur les 10 prochaines années à venir. Ou est-ce que je prends sur mon taux monétaire du 3,60 à aujourd'hui, 3,50, 3,60. Et je verrai bien dans 3 mois, en fonction de ce que la Banque centrale va faire, est-ce que je me positionne à ce moment, plutôt à ce moment-là?
Mais est-ce que cette technique et cette manière de faire, elle risque pas d'être contre-productive, voire dangereuse, dans une période de baisse des taux?
Ça dépend. De notre point de vue, non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on regarde en fait ces techniques-là, ça permet en fait un des avantages qui est le plus intéressant, c'est que ça sépare le sujet des taux d'intérêt du sujet des défauts et des faillites d'entreprise. Donc, ça me permet en fait de me placer comme je veux entre guillemets si j'ai une vue sur la partie défaut d'entreprise, prime de risque de crédit et une vue spécifique sur les taux d'intérêt. Aujourd'hui, si on fait le constat du marché, même depuis le début d'année, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait un marché du crédit qui est complètement normalisé. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de craintes sur la croissance. On voit des entreprises qui arrivent à se financer, même les entreprises les plus risquées, qu'on appelle du segment haut rendement, du high yield, les entreprises les moins bien rated. En fait, il y a une dynamique qui est plutôt positive sur le marché du crédit. Et ça se traduit d'une part par des taux de défaut qui montent un petit peu et qui restent bien plus bas que leur moyenne historique. Et d'autre part, eh bien, une volatilité sur le marché du crédit qui est très, très faible. D'ailleurs, c'est la même image sur le marché action. Une volatilité très, très faible. Par contre, si on regarde du segment du taux d'intérêt, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une politique monétaire qui, certes, là, a été amorcée par la BCE de baisse des taux d'intérêt. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'inflation et sur la croissance. Et donc, on a une volatilité des taux qui est toujours assez importante. Donc, vous avez deux opportunités, deux choix à ce moment-là. Soit, et c'est ce qui est le sens de cette stratégie-là, je me positionne, je prends mon risque sur la partie prime de risque de crédit, parce que je suis confiant dans l'économie, parce que notre scénario, on met une probabilité extrêmement faible sur une récession profonde de la zone euro et aux États-Unis d'ailleurs. Et du coup, je préfère me placer sur ce segment-là et de garder une liquidité élevée. C'est-à-dire que si, par malheur, on n'est jamais à l'abri d'un contexte géopolitique qui se dégrade, ce que les commentateurs aiment bien appeler le signe noir d'une situation qui nous pousserait en fait à réduire ce risque-là. Donc, j'ai la liquidité là-dessus. Mais par contre, sur la partie courte, eh bien, mon cash, il travaille quand même sur un rendement qui est somme toute l'un des plus élevés que l'on puisse avoir sur le spectre de la courbe des taux.
Alors, déjà, le rendement le plus élevé, ça, c'est qu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas
Tout
quelque
à fait.
chose qui va perdurer dans le temps. Et est-ce que vous avez des outils qui permettent de mesurer le gain que cette stratégie apporte par rapport à une stratégie classique? Est-ce que vous les avez mesurés? Et est-ce qu'on a vraiment des années où on est gagnant, des années où on est perdant? Ou c'est plutôt un long fleuve tranquille et on est de manière quasi systématique gagnant?
Alors, malheureusement, dans le marché financier, c'est très rare. Enfin, le seul segment sur lequel le long fleuve est tranquille, c'est le segment très court monétaire qui ressemblerait parce que, comme je disais, un peu comme un livret d'épargne bancaire. Et encore, il faut bien choisir sa banque. Ce que l'on peut constater, c'est qu'en fait, sur un cycle global, ce que vous allez retrouver, c'est que, en fait, soit vous avez deux stratégies, soit vous mettez sur cette stratégie un peu tout le temps. Et là, pour le coup, ce que l'on peut voir, c'est que depuis le lancement de ce type de stratégie, on l'a lancé assez tôt, enfin en 2007, le premier type de fonds qui implémente cette stratégie-là, eh bien en fait, sur la durée, on est largement plus gagnant qu'une stratégie, on va dire, plus obligataire classique. Pourquoi? Parce que il y a des éléments qui font que, en fait, quand vous achetez une obligation classique, vous achetez une obligation, on va dire, 5 ans, eh bien vous la portez jusqu'à l'échéance. Donc, vous avez un potentiel. Imaginons, on est dans un scénario positif, eh bien vous avez un potentiel élevé sur les 2 premières années parce que l'obligation est longue. Quand les marchés de taux et de crédit bougent, eh bien vous en profitez pas mal. Mais sur les années, à fur et à mesure que l'obligation vieillit, elle est de moins en moins sensible au marché et du coup, le potentiel est plus faible. Sur ce type de stratégie, eh bien, comme ça coûte très peu cher d'aller la liquidité sur ce marché-là, ben vous vous placez toujours sur un segment du 5 ans. tous les 6 mois, vous repassez sur un segment du 5 ans. Et ça vous permet de générer un effet technique qu'on appelle le roll down, un effet technique qui permet en fait de toujours se replacer aux 5 ans. Et en fait, comme la courbe du crédit, c'est pas comme la courbe des taux, elle est toujours pointue, c'est-à-dire que en fait, si vous prenez un risque sur une entreprise, il sera toujours plus élevé à 5 ans qu'à 4 ans et demi. Parce que si une entreprise fait faillite dans les 4 ans et demi, bah, ça compte dans les 5 ans. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que toute chose égale par ailleurs, sur une courbe qui est pointue, eh bien, si, même si la prime de risque de crédit ne bouge pas, eh bien, en fait, entre 5 ans et 4 ans et demi, vous avez plutôt gagné quelque chose.
Très bien.
Et donc,
Allez-y,
voilà.
je vous laisse conclure. C'est le moment de
Et
conclure.
du coup, c'est une stratégie qui est plutôt porteuse sur la durée. Il y a une autre possibilité, c'est-à-dire de faire plus de la gestion tactique que ce qu'on en fait sur d'autres types de produits. Eh bien, ce type de stratégie-là permet de faire cette gestion tactique dans le sens où on peut arbitrer entre les différentes poches en fonction d'un scénario de marché que l'on voit se profiler à l'horizon.
Bon, alors là, on a des messages qui commencent à monter. Donc, je vous avais prévenu, on était sur un sujet extrêmement technique. Ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, il y aura le podcast. Vous pourrez réécouter, appuyer sur pause, appuyer sur démarrer, aller en arrière. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Donc, mille pardons à ceux qui ont été un petit peu largués avec le niveau technique, mais revenez sur le sujet et vous allez voir que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être de nouveaux horizons. Donc David Calfon de Senso Yes nous a rejoint. Bonsoir David, merci d'être toujours là, d'être toujours fidèle au poste. Et c'est maintenant le temps de l'édito où on va partager. Juste avant David, un petit mot sur les résultats des élections, l'ouverture en forte baisse des marchés. No comment?
Que dire? Que dire? No comment.
No comment. OK, allez, on démarre avec l'édito. Une année de transition. Tout porte à croire que 2024 sera une année de transition sur les marchés. Prenons notre indice national, le CAC. Il a baissé en 2022 quand l'inflation faisait peur et que la BCE a commencé à déclencher les hausses de taux. En 2023, les opérateurs de marché qui sont de grands enfants sont repartis de l'avant, en pensant que tout irait bien dans le meilleur des mondes. Puis en 2024, les doutes se sont opposés aux espérances et le chaud a été soufflé comme le froid. L'indice est positif, environ 6% depuis le début de l'année, ce qui veut dire qu'un coup de canon peut le ramener à zéro en 10 jours, à peine, et qu'un vent porteur peut le faire s'envoler. C'est exactement ce que nous attendons, quelques nouvelles qui nous montrerait que l'inflation est maîtrisée, que l'économie a ralenti sans s'effondrer et qu'un stimulus monétaire serait le bienvenu. Et là, bingo, on finit l'année en beauté et on prépare une autre tout aussi sympathique. Mais attention, le contraire pourrait se passer. Une inflation qui ne veut pas totalement rentrer dans les clous. Une économie qui reste suffisamment forte pour ne pas avoir besoin d'un stimulus. Et là, les marchés ne vont pas aimer, même pas du tout. Un autre problème qui pourrait mettre mal à l'aise les opérateurs serait une forte divergence entre l'Europe et les États-Unis, une Europe qui aurait besoin de baisse de taux et les US qui n'en auraient point besoin. Une dernière chose, les années boursières ne sont pas des années civiles, elles vont plutôt du 1er février au 31 janvier et en novembre, une surprise nous attend, les élections américaines. Quand j'ai écrit ce texte, je ne savais pas que fin juin, une autre surprise allait nous attendre aussi avec les élections françaises. Sans préjuger de celles que l'on pourrait avoir avant. Pour finir, chez Parlons Patrimoine, les années commencent en septembre et finissent en juin. Cette émission est la dernière avant septembre, où nous vous réservons de très belles surprises pour une émission un petit peu modernisée. Et comme à chaque fois, c'est maintenant à David. David, vous en pensez quoi? Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous ne voulez pas
Oui,
répondre, ce n'est pas grave. Maintenant, il va falloir répondre.
je préférais réserver ma réponse pour après votre édito plutôt que avant votre édito. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, effectivement, les marchés n'aiment toujours aussi peu, quoi. Il y a toujours autant d'aversion par rapport aux incertitudes. Donc, chaque fois qu'on s'approche d'un terrain inconnu, chaque fois qu'on soulève des incertitudes, ça crée des sujets. Ce qui est intéressant, c'est la réaction que l'on voit sur les marchés obligataires, sur les emprunts d'État. On voit bien hein, les taux se tendent surtout sur l'OAT française, bien entendu, mais sur le BTP italien également, le 10 ans italien. Donc, ça veut bien dire que les investisseurs de l'étranger perçoivent bien que le résultat de ces élections, et pas seulement en France, c'est-à-dire au niveau européen, avec la poussée donc des partis nationalistes eurosceptiques, cette percée devient préoccupante, puisque ça pourrait aboutir à des tensions, des dissensions, etc. Et le risque ultime, n'oublions pas, alors je ne dis pas qu'il va se réaliser, mais le risque ultime, c'est de toutes les manières que un des États, finalement, se dise que rembourser une dette qui est largement détenue par la BCE, bof, bon, pourquoi se préoccuper de tout cela? Et donc, ça crée des tensions sur, effectivement, la suite du projet européen. Et qui dit la suite du projet européen dit surtout la suite de la stabilité économique que l'on a eue en zone euro depuis tant d'années. Donc, je pense que c'est ça que les marchés sanctionnent un petit peu aujourd'hui.
Alors, on va aller chez CPR. Antoine, on va vous donner la parole. Donc, deux choses, hein. D'abord, une réaction technique, hein, pas une réaction politique, à la surprise de la dissolution avec les marchés en forte baisse ce matin. Et après, on revient plutôt sur cette année de transition et comment vous voyez cette année 2024 s'inscrire.
Pour ce qui est des marchés, bon, effectivement, ce week-end, il y a eu ce coup de semonce de notre président qui apporte de l'incertitude par rapport à la gouvernance de la zone euro indirectement, même si les taux des emprunts des États concernés sont plus impactés. Mais globalement, ce qui va régir les marchés mondiaux, c'est l'attitude des banques centrales. La semaine dernière, la BCE a commencé son cycle de baisse des taux. C'est quand même une première, hein, que la Banque centrale européenne dégaine, si je peux faire un parallèle avec une attitude peut-être plus cow-boy avant les États-Unis. Donc c'est quand même quelque chose de très nouveau. Et surtout, le rythme auquel les banques centrales vont baisser leurs taux. Donc ce qui s'est passé ce week-end va peut-être avoir un impact sur les chiffres, notamment de l'inflation et de l'économie, et donc indirectement sur le cycle que les banques centrales et la Banque centrale européenne va baisser ses taux. Aux États-Unis, tu l'as rappelé, hein, en novembre, il y a une élection chez eux et ça va modifier également le rythme. Donc l'écart de taux entre les États-Unis et la zone euro va s'agrandir. Nous, notre point de vue chez CPR et globalement chez Amundi, c'est qu'on a un scénario central qui reste positif à ce qu'on appelle les actifs risqués, donc particulièrement aux actions, mais encore une fois, dans une dimension mondial. Le CAC 40, c'est une chose, hein, ça concerne la France et ça dépend aussi de sa composition. Chaque indice a des pondérations différentes. Hein. Ce qui se passe ce matin, et notamment la baisse de 2% d'environ du CAC, ça dépend beaucoup de ce qui compose le CAC et notamment les valeurs bancaires, hein, qui baissent fortement aujourd'hui. Et ça a un poids également dans la baisse de l'indice. Nous, dans nos gestions, on a une gestion plutôt diversifiée. Les États-Unis restent quand même l'indice mondial. Un indice qui est bien connu, c'est l'indice Morgan Stanley World, qui est constitué à quasiment 70% du marché américain. Donc, quand on se compare à cet indice mondial, eh bien, les États-Unis ont tout à fait leur rôle à jouer, et notamment le rôle d'amortisseur. N'oublions pas qu'il y a les devises également. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, le dollar s'est sensiblement apprécié contre euro. On est repassé sous la barre des 1,08 contre euro. Ce qui veut dire que dans une gestion diversifiée mondiale, eh bien, on est moins assujetti aux soubresauts qu'on peut avoir uniquement sur le CAC 40 aujourd'hui et un peu moins sur les indices de la zone euro. Donc on reste toujours positif sur les marchés pour les 3 mois à venir. Encore faut-il que l'horizon d'investissement de chacun soit compatible. La bourse, c'est pas fait pour spéculer. On dit toujours qu'on place en bourse l'argent dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'aller investir aujourd'hui quand on doit récupérer ses avoirs dans 3 mois. Donc,
Ok, je vais vous arrêter là et on va passer à un autre sujet. Zacharia, comment est-ce que ça a réagi sur cette stratégie de spread, la nouvelle de, enfin, bon, déjà les résultats européens qui mettent un petit peu en difficulté l'establishment et les résultats français qui projettent la France dans une période d'incertitude. Déjà, est-ce que globalement, on a une action-réaction et vous pouvez dire les spreads se sont resserrés ou les spreads se sont écartés avant de rentrer dans le détail ou on n'a pas de résultat global?
Oui, on a une réaction sur les marchés européens parce que finalement, ce que je disais, c'est le prix de la liquidité, c'est que ce sont les instruments les plus liquides, les instruments qu'on peut traiter le plus facilement, qui vont réagir le plus rapidement possible. David soulignait, par exemple, pour donner un exemple très concret, soulignait que ce matin, les dettes d'État qui étaient attaquées, c'était la France et l'Italie. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce sont les dettes les plus facilement, sur lesquelles les plus facilement on peut spéculer dans le marché. C'est des dettes sur lesquelles il y a des instruments dérivés, des futurs de taux, sur lesquels on peut spéculer. Il n'y a pas ça sur il y a sur l'Espagne, mais c'est très peu liquide. Il n'y a pas ça sur l'Autriche, par exemple, sur lesquelles les extrêmes sont sortis gagnants des élections. Donc, en fait, ce qui est attaqué au début, c'est toujours les actifs les plus liquides. Pour revenir à notre stratégie, eh bien, finalement, donc, les spreads de crédit, les primes de risque de crédit s'écartent ce matin. Sont assez corrélés, assez liés à ce qui va se passer, par exemple, sur le marché mondial, donc ce qu'on appelle les actifs risqués. Ça
Donc,
s'écarte.
attendez, si j'ai bien compris, pour simplifier, si des spreads de crédit s'écartent ce matin, ça veut dire que ce soir, votre fonds, il va clôturer avec une petite baisse ou une micro-baisse ou une légère baisse. C'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc ça va être en baisse parce que c'est un fonds crédit. Ça va être moins en baisse qu'un fonds obligataire. Pourquoi? Parce que la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu sur l'Allemagne, l'Italie, la France, eh bien ça ne va pas du tout se traduire sur la stratégie parce que justement, on n'est pas exposé à ce risque de taux-là. Donc on est exposé au risque de crédit, au risque de prime de faillite. Donc oui, l'incertitude, comme le soulignait mon confrère. Et l'incertitude, les marchés n'aiment pas l'incertitude. C'est-à-dire que si on n'a pas un horizon qui est défini, il y a un risque qu'une entreprise fasse défaut, fasse faillite. Antoine a souligné le sujet des segments bancaires, par exemple, qui est particulièrement attaqué parce qu'il est lié à la croissance, il est lié à des sujets réglementaires. Et les banques détiennent pas mal de dettes d'État. Donc, tous ces éléments-là font que, par exemple, le secteur bancaire est plus attaqué que les autres secteurs ce matin. Et donc, en fait, ce type de stratégie qui est sur le crédit, ben, va réagir à ces primes de risque qui sont
Et alors,
sur.
juste une petite question sur le secteur bancaire. C'est un problème franco-français et ce sont les banques françaises qui sont attaquées ce matin ou c'est un problème européen et l'ensemble du secteur bancaire européen est en baisse?
Alors, l'ensemble du secteur européen est en baisse, mais c'est particulièrement les banques françaises qui sont le plus attaquées. Pourquoi? Parce que justement, dans ce cadre, en fait, les marchés aiment toujours anticiper. On avait déjà les sondages. On peut mettre le degré de crédibilité que l'on souhaite sur les sondages. On peut en débattre très longuement. Mais en gros, en fait, si on regarde les différents pays, la vraie surprise, c'est la dissolution de l'Assemblée, en fait. Et du coup, dans ce sens, c'est plutôt la France qui est beaucoup plus touchée que les autres pays. Et très logiquement, ce sont les banques, les entreprises françaises, globalement, qui sont plus touchées. Et c'est pour ça aussi que le CAC 40 baisse beaucoup plus, de façon plus marquée que les autres indices européens ce matin.
D'accord.
Un
Alors,
autre, excuse-moi,
allez,
Bernard.
en une seconde, Antoine.
À noter que la gestion repose sur des indices et des échantillons. Donc Zacharia n'est pas exposé à un ou deux ou trois ou X, beaucoup plus diversifié. Et il a également une gestion sur les marchés américains et pas spécifiquement au marché de la zone euro.
D'accord. Alors, on va revenir à David et plutôt sur la deuxième partie. Quittons un peu le politique. Donc, la deuxième partie, c'est cette idée un petit peu de croiser des chemins et qu'en fin de compte, on est sur une année de transition qui va déclencher ou une poursuite de la hausse et 2025, ça va bien se passer ou alors non et on va vers un retournement et une petite période baissière. Alors là, on ne va pas faire les gourous. Est-ce qu'elle sera de 1, 2 ou 3 ans? On n'en sait rien. par rapport à cette économie et ces chiffres américains qui sont troublants. C'est-à-dire que on a l'impression que cette économie, elle va très bien, qu'elle a trouvé un bon rythme avec des taux qui sont assez élevés, qui sont autour de 5%, et que ça marche, et que donc, voilà, y a pas vraiment de raison de baisser les taux. Enfin, y a pas besoin de stimuler quand il n'y a pas besoin de stimulus. Vous voyez ça comment, vous?
Alors, c'est vrai que les États-Unis, quoi, l'économie américaine, je crois que ce qui la caractérise, c'est qu'elle ralentit, mais elle ralentit extrêmement lentement. Voilà, je crois que c'est ça la grosse différence. Alors, après, il faut se méfier un petit peu du marché américain, quoi, de l'économie américaine, puisque on peut aussi avoir des scénarios dans lesquels on bascule de la croissance à la récession sans crier gare. J'en veux pour preuve le. De mémoire, troisième trimestre 2007, donc c'est juste avant qu'on rentre en 2008, troisième trimestre 2007, l'économie américaine est en croissance de 2,4%. Le trimestre d'après, on est en récession. Donc 2,4%, c'est un rythme qui est quand même assez soutenu, quoi. C'est pas, on n'est pas proche de zéro, quoi. Donc cette bascule, elle peut se faire aux États-Unis, en tous les cas, l'histoire l'a montré, plus vite qu'on ne le pense. Donc c'est le point sur lequel moi j'aurais un petit bémol. Après, effectivement, j'ai envie de dire que les accidents ou la poursuite ou la volatilité, etc., il y a beaucoup plus de chances qu'elles proviennent de facteurs exogènes qu'elles proviennent de facteurs économique. Je vois plus de risques avec les élections américaines, avec la géopolitique, avec voilà, tous les remous que l'on peut avoir. Ils seraient du coup des remous plutôt temporaires, hein, puisque les marchés prouvent que, en tous les cas, l'histoire nous dit que tous ces problèmes géopolitiques ou politiques, c'est des sujets qui sont finalement assez vite digérés par les marchés. De mémoire, le seul point qui avait vraiment été pénible, c'était en 73. Et la raison, c'est tout simplement parce qu'en 73, il y avait eu les prix du pétrole qui avaient tellement monté à la suite des problèmes déjà à l'époque au Moyen-Orient, que on s'était retrouvé avec une transmission du géopolitique à l'économique. Mais en dehors de cela, chaque fois qu'il y a eu des crises géopolitiques, les marchés ont plutôt globalement, nous on avait fait des statistiques il n'y a pas si longtemps que ça, on avait regardé, en gros, 12 mois après, vous avez des marchés qui sont en hausse. Voilà, donc après le coup de semonce, le coup de semonce initial. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce sujet-là. Alors sur les statistiques américaines, un mot toutefois sur la qualité des statistiques américaines. Nous on est un petit peu perturbé chez Sanso de voir qu'il y a énormément de chiffres qui font l'objet de révisions de plus en plus significatives. Et donc ça, c'est quand même un petit peu perturbant parce que sur la lecture de ces indicateurs, c'est un phénomène qu'on n'a pas encore véritablement expliqué, mais on a l'impression que ces données économiques, elles sont moins fiables que par le passé. Alors c'est vrai que les États-Unis fonctionnent avec beaucoup d'enquêtes, hein, ce sont des questionnaires qui sont envoyés aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'achat, etc. Et on trouve que voilà, ces enquêtes sont très, très souvent revues de manière très significative quelques mois après, ce qui brouille un petit peu les cartes.
D'accord, donc tout ça, donc vous avez été extrêmement didactique, vous avez bien expliqué. Il n'y a pas de prise de position. Donc on va essayer d'aller vers une prise de position. Comment vous voyez cette année, ce déclenchement? Donc on va avoir des surprises politiques. On vous a bien compris et je partage votre avis. Même si des surprises politiques changent la réalité de votre prévision, en vérité, elle changera juste le timing de la réalité. Puisque l'économie prendra le dessus et ça le fera quand même. Et aujourd'hui, à peu près toutes les grandes sociétés sont tellement mondialisées que les points politiques ne sont pas si importants. Donc, comment est-ce que vous voyez cette année? Puis après, je poserai la même question à Zacharia.
Vous allez me forcer à dévoiler
Ça
la
sera très
chronique
bien.
que j'avais préparée.
Ouais.
Mais bon, je vais quand même dire que bon, En fait, sur 2024, moi, hormis donc les secousses géopolitiques et donc exogènes, moi, je ne vois pas trop de sujets au niveau économique, à la fois en zone euro et à la fois aux États-Unis. La vraie question pour moi, c'est beaucoup plus une question 2025 que 2024.
D'accord. OK, alors on va pas, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de 2025, puisque je pense que vous allez nous délivrer tout à l'heure. Et je vais revenir à vous, Zacharia. Comment vous voyez cette deuxième partie de l'année, où maintenant on va avoir du politique deux fois, des deux côtés de l'Atlantique. J'ai même envie de dire on va avoir du politique français entre le 30 juin et le 7 juillet. Ensuite, on a l'élection de von der Leyen. Enfin, l'éventuelle réélection de von der Leyen, je crois, autour du 15 juillet. Juste le temps de partir en vacances, de se remettre au travail et les élections américaines, où là, on peut peut-être quand même avoir quelques petits rebondissements, hein, parce qu'il y a un peu des procès de tous les côtés, des choses comme ça. Donc, on a un vrai agenda politique extrêmement construit. On a aussi un agenda économique. Donc, quel est votre point de vue et votre vision sur cette deuxième grosse partie de l'année?
C'est très intéressant, en fait, la question. Les éléments déjà dans la question, c'est que finalement, en fait, si je peux résumer en un mot, c'est l'incertitude. C'est une incertitude qui n'est pas uniquement liée au financier, c'est vraiment une incertitude qui est liée aux politiques, donc à différents mouvements politiques. Mais dans notre malheur, on a une chance, et cette chance que j'appellerais la désynchronisation. C'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, là où, en fait, avant, on avait une politique, on avait une croissance mondiale qui a ralenti en même temps, qui a accéléré en même temps. Il y avait une globalisation qui est très élevée. Aujourd'hui, en fait, on voit que les cycles sont en train de se désynchroniser. On témoigne la BCE qui baisse ses taux avant la Fed et avec une perspective de plus de baisse des taux dans l'année, alors que pour la Fed, honnêtement, la partie, elle n'est pas encore faite. On voit, si on sort, en fait, de ce monde bipolaire BCE-Fed et on regarde tout autour de nous, on se rend compte qu'il y a plein d'économies qui ont bien avancé dans leur cycle d'assouplissement monétaire. Exemple, il y a les pays émergents sur lesquels il y a déjà une forte baisse des taux d'intérêt parce qu'ils ont déjà fini leur process de désinflation. Si je regarde d'autres pays un peu plus lointains. Si je regarde par exemple des pays qui sont très bien notés, pour donner des exemples très concrets, on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sur lesquels vous avez encore des taux d'intérêt très élevés, mais des perspectives de croissance, certes, qui tiennent, mais beaucoup moins solides que l'économie américaine qui repose fondamentalement sur une croissance, sur une consommation interne, et qui est de ce point de vue-là plus solide que ce type d'économie. Donc en fait, le maître mot dans l'affaire, c'est plutôt en fait la diversification. C'est-à-dire que là où on a des éléments qui vont être. Aujourd'hui, l'économie américaine est solide. Donc, sur une perspective, on va dire, de quelques mois avant le bruit présidentiel, on peut toujours, vous avez parlé de positionnement, on peut toujours être positionné sur les actifs risqués américains avec cette perspective-là de croissance qui tient, de processus inflationniste qui est bien, bien enclenché, même si on n'est pas à la cible. Tout en limitant l'exposition au risque des taux d'intérêt parce que ça reste extrêmement volatile pour l'économie américaine. Après, il faut diversifier cette exposition-là. L'Europe a commencé son cycle de désinflation, de pardon, d'assouplissement monétaire. C'est quelque chose qui peut être positif pour les actifs risqués. Mais pareil, le chemin est quelque part un petit peu complexe.
Là,
Ce qu'il y
juste une
a.
question, excusez-moi de vous interrompre, juste une question. Est-ce que c'est un vrai assouplissement économique qu'on a eu ou un assouplissement politique de votre point de vue?
Honnêtement, je pense que c'est un assouplissement, c'est un les deux en fait. Je vais développer. Premièrement, assouplissement monétaire dans le sens où en fait les attentes de baisse d'inflation, en fait, c'est vraiment en termes de prévision et d'attente sont de plus en plus basses. Et du coup, ça pousse les gens à faire quoi? Justement, par rapport à votre remarque du début, ça pousse pas mal d'investisseurs à aller dire, bon, la BCE a commencé à baisser les taux, donc moi, ce que je détiens dans mon livret ou sur ma partie courte, je vais plutôt acheter je vais acheter des obligations longues pour verrouiller ce fameux taux d'intérêt. Dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Et on voit cette dynamique-là sur le marché du crédit, des entreprises qui viennent se refinancer. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent pour acheter cette dette-là. Il y a un côté politique, si j'ose dire comme ça, c'est que en fait, finalement, la BCE baisse ses taux, même si l'inflation n'est pas encore à l'objectif, elle sera à l'objectif en 2025, peut-être. Mais dans ce sens-là, c'est politique parce que ça achète, en tout cas, ça achète une certaine paix en termes de fragmentation ou plutôt solidité de la zone euro, et surtout, en fait, une inflation qui ne dérape pas, mais qui reste un petit peu au-dessus de l'objectif des 2%, c'est quelque chose qui est bien pour le déficit, vu qu'on en parle beaucoup en ce moment.
Ok, eh ben, ceci va clôturer l'édito. Donc là encore, c'était bien dense. Merci des podcasts. Il faudra peut-être écouter. N'hésitez pas à envoyer des questions par mail si vous avez besoin d'éclaircissement à la radio. On y répondra. Et si on ne peut pas y répondre, on fera remonter les questions à nos invités qui se feront une joie d'y répondre. Merci beaucoup, Zacharia. Merci beaucoup, Antoine. Je rappelle, CPRAM. Qui a fusionné avec Amundi. On dit toujours CPM, mais c'est moins connu que Amundi. On a bien compris.
Elle n'a
Merci.
pas fusionné, elle a toujours été présente au sein du groupe. Donc, elle était
D'accord.
intégrée, mais avant, nous.
Super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était une première fois pour vous. Ce ne sera pas une dernière. On vous réinvitera avec plaisir. Et
Merci.
à très bientôt. Et on vous souhaite un bel été. Et c'est maintenant au tour de David Calfon, qui va nous faire son point marché, le dernier point marché de l'année. Donc, il l'a bien préparé. Vous allez voir, c'est un très, très beau point marché auquel on va avoir droit. David, c'est à vous.
Bonjour à tous. On se retrouve effectivement pour la dernière chronique des marchés de la saison. Et alors que nous approchons de la fin du premier semestre, il me paraissait opportun de faire un premier bilan sur ces marchés. Le bilan, malgré la baisse d'aujourd'hui, il est globalement bon. Les actions de la zone euro sont en hausse de à peu près donc 12% si on intègre la chute d'aujourd'hui. Les actions américaines progressent de 13%, le Japon est en hausse de 17%, et même la Chine, avec tous ses problèmes, gagne malgré tout 5% depuis le début de l'année. Côté obligataire, si on met de côté les emprunts d'État de la zone euro, les performances sont également satisfaisantes. Le bilan est bon et il est même bon de manière surprenante. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, rien ne s'est passé comme prévu. Les investisseurs attendaient des baisses de taux, beaucoup de baisses des taux. On parlait de 5 à 6 baisses des taux dès le mois de mars aux États-Unis et en Europe. Qu'avons-nous eu? Rien pour le moment. Rien aux États-Unis, et la BCE a timidement commencé son cycle de baisse la semaine dernière en disant qu'elle n'irait pas trop vite. Aux États-Unis, certains analystes s'attendent désormais à ce que la Fed reste sur ses gardes jusqu'en 2025. Et malgré ce revirement total sur le marché des taux d'intérêt, les marchés ont progressé. Ils ont même beaucoup progressé si on considère que sur le long terme et en moyenne, beaucoup d'études montrent que les actions rapportent entre 7 et 8% par an. Les performances que je vous ai citées en début de chronique sont supérieures à ces niveaux-là. Donc, on est sur un rythme de croissance des marchés actions supérieur à la moyenne, malgré cette déception sur les taux d'intérêt. Alors, on pourrait applaudir nos banquiers centraux pour un véritable travail de funambule exécuté avec brio. Les attentes des investisseurs ont été décalées dans le temps, sans créer de remous sur les marchés, un scénario sur lequel je n'aurais pas beaucoup misé en décembre dernier. Alors, deux questions. Pourquoi ont-ils réussi et que pouvons-nous attendre pour la suite? Pourquoi ont-ils réussi? Eh bien, tout simplement parce que les résultats d'entreprise ont bien tenu. On le dit souvent, en bourse, on n'achète pas du PIB, on n'achète pas des enquêtes de directeurs d'achat, on achète des résultats d'entreprise et des dividendes futurs. De ce côté-là, les investisseurs ont eu, en Europe comme aux États-Unis, enfin surtout aux États-Unis, leur lot de bonnes surprises. Cette dynamique bénéficiaire permet d'ailleurs au marché de rester sur des valorisations qui sont riches, mais pas extrêmes. Grande question maintenant, deuxième partie, que pouvons-nous attendre pour la suite? Eh bien, ce qui était prévu pour 2024 devrait se produire en 2025. Je pense que pour le coup, il faut s'attendre à plus de baisses des taux en Europe, plus qu'aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien, parce que la croissance va devenir un vrai sujet. Vous savez que le mandat de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Aux États-Unis, le mandat est double, la croissance et l'inflation. En Europe, pour le moment, la BCE ne s'occupe que de l'inflation, mais le différentiel de croissance entre les États-Unis et l'Europe est devenu tel que la Banque centrale européenne ne va plus avoir d'autre choix que de se préoccuper de croissance également. La Banque centrale européenne a précisé que le taux neutre devait se trouver entre 2% et 2,5%. Nous sommes à 3,75%, il y a de la marge. En revanche, si les marchés ont monté lorsque les baisses de taux ont été reportées, baisseront-ils une fois que les baisses auront été délivrées? Personnellement, je reste convaincu qu'il ne faut pas essayer de prédire l'avenir, mais plutôt de s'adapter à ce que nous n'avons pas prévu. Je conclurai donc avec cette phrase de Peter Lynch, le célèbre gérant de portefeuille de chez Fidelity, qui disait: plus d'argent a été perdu en bourse en essayant d'éviter les corrections que durant les corrections elles-mêmes. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, 2025, je ne suis pas très, très optimiste sur ce qui nous attend. Pour autant, est-ce qu'il faut essayer de timer ce marché, c'est-à-dire d'en sortir complètement, de revenir au bon moment, etc. L'expérience que j'ai depuis maintenant quelques années sur ces marchés m'ont amené l'humilité et je me garderai bien de me plier à cet exercice. Bernard, vous êtes en mute.
Ok, si vous n'êtes pas optimiste pour 2025, en réalité, c'est que vous n'êtes pas optimiste pour le marché action, donc la croissance. Ce qui voudrait dire que si le marché action patine parce qu'on n'a pas de croissance, cette fois-ci, les baisses de taux que tout le monde attend finiraient par avoir lieu, ce qui serait somme toute plutôt positif pour le marché obligation.
Tout à fait. On pourrait passer d'une année où on a eu un marché finalement sur les marchés d'État qui était un marché de crédit, c'est-à-dire il fallait tirer des obligations d'entreprise pour faire du portage obligataire. Peut-être que en 2025, ça deviendra un marché où il faudra se réintéresser aux obligations d'État pour profiter des
Alors,
baisses des taux.
pour reprendre un petit peu les belles phrases, y en a une autre que j'aime bien, c'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je me demande si, en fin de compte, avec cette hausse des taux qui devait lutter contre l'inflation, qui elle-même venait du fait de la guerre et du chamboulement du mixte énergétique. Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas eu tout faux depuis le début? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a acte 1, la guerre. Bon, là, ça fait peur à tout le monde, ça perturbe. L'attaque militaire surprise russe échoue. Et on voit que ce ne sera pas une guerre ultra courte. Là, du fait de l'importation du gaz russe, ça vient chambouler totalement notre mix énergétique. On est pris en tenaille ou entre le marteau et l'enclume, entre deux choses, entre d'abord de la réglementation et de la régulation qui font que le prix de l'électricité, il se détermine pas par rapport au vrai prix de la production. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'on risque d'avoir tout simplement des difficultés d'approvisionnement et on risque de manquer d'énergie. Les deux s'avèrent être faux. On n'a jamais manqué d'énergie et personne n'a eu besoin de tourner le robinet ou de baisser le robinet. Et beaucoup de pays, comme par exemple ici le Portugal et l'Espagne, se sont un peu rebellés contre la manière de caractériser le prix de l'énergie. Et donc, on n'a pas eu ça. Ensuite, on a un déclenchement d'inflation alimentaire. Ensuite, on a un déclenchement d'inflation parce que le prix des transports monte. Et c'est contre ce déclenchement d'inflation qu'on vient lutter de manière forcenée en remontant les taux. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce déclenchement d'inflation, en fin de compte, c'était pas juste un boom, un espèce de bang, un espèce de franchissement de mur du son, et qui serait revenu dans une zone de lui-même sans avoir à rien faire. Et donc là, je me dis, nos hausses de taux n'ont pas eu l'effet qu'on voulait qu'elles aient, parce que de toute façon, la raison pour laquelle on les a montées était des raisons qui n'existaient pas vraiment et qui n'étaient pas ancrées dans le cœur de l'économie, dans le cœur de l'économie. Et donc, en fin de compte, on a eu tout faux. On continue à avoir tout faux, puisqu'on se disait, ben maintenant qu'on a monté, on va casser l'économie, il faut baisser. On n'a pas besoin de baisser, il y a encore une dynamique. Et donc, Est-ce que cette hausse des taux va finalement venir dans quelques mois abîmer l'économie? Parce que là où elle a vraiment abîmé tout un secteur, c'est dans l'immobilier et dans la construction. Là, on a un vrai, vrai secteur abîmé. Mais est-ce qu'on va vraiment avoir dans quelques mois la pénétration de cette hausse des taux dans le marché? À la surprise de tout le monde, des mauvais chiffres qui vont arriver et donc votre mauvaise année 2025 qui va se profiler. Et donc cette fois-ci, une vraie baisse des taux parce qu'on a vraiment besoin de stimuler l'économie. Et voilà. Et en fin de compte, mon année de transition, ben, ça deviendrait une espèce de quinzaine de mois pour rien parce que comme on n'a que pédalé dans la choucroute, eh ben, on n'a rien d'autre. Alors tout ça, c'est un peu dense, tout ça, c'était un peu très technique. Et David, je vais vous laisser me contredire ou pas.
Alors, je reprends sur un point. Lorsque vous dites qu'on avait finalement, on n'avait pas vraiment besoin de monter les taux d'intérêt parce que l'inflation, ça serait corrigé tout seul. En fait, la raison pour laquelle on a monté les taux d'intérêt, c'est pour justement éviter que cette inflation conjoncturelle se transforme en inflation structurelle. Mais je m'explique. Si vous avez une pénurie, ça fait monter le bien, les biens, ça vous fait de l'inflation. La pénurie résorbe, les prix baissent, tout c'est auto-régulé. Le problème, c'est qu'entre-temps, vous avez des salariés slash consommateurs. Et ces salariés slash consommateurs, lorsqu'ils voient que les prix augmentent, d'un moment, ils commencent à faire la tête, ils vont voir leur employeur et ils disent, bon, là, ça va pas, il me faut des salaires plus élevés. Et vous enclenchez cette fameuse boucle, hein, ce second effet, la boucle prix-salaire. Et cette boucle prix-salaire, c'est la hantise des banquiers centraux. Parce qu'on se dit effectivement que quelque chose qui était ponctuel, conjoncturel, si permettre aux consommateurs de passer ce travailleurs consommateurs de passer ce cap avec des prix plus élevés, on lui augmente son salaire, cette hausse de salaire est quelque chose sur lequel on peut revenir. Et si les salaires augmentent, après, l'entreprise, elle va avoir besoin de maintenir ses marges, donc elle va remonter ses prix, et vous avez enclenché cette boucle prix-salaire. Donc, elle est très difficile de sortir. Donc, peut-être que effectivement, l'inflation seule aurait rebaissé, parce que la pénurie, elle se serait calmée. Mais en revanche, est-ce qu'entre-temps, on n'aurait pas enclenché une boucle de salaire-prix? Ça n'est pas sûr du tout. Il faut que les salaires ils sont quand même pas mal augmentés. On avait des chiffres de 4 à 5%, donc pas autant que la situation, mais ils ont quand même beaucoup augmenté suite aux hausses de prix de l'année 2022. On n'avait pas marqué le coup avec les hausses de taux pour dire, voyez, les salariés, ça y est, les hausses de taux, là, c'est bientôt fini, les baisses rebaissent, etc. Donc, on ne va pas augmenter les salaires. Là, vous avez l'assurance que l'inflation rentre un petit peu voilà, c'est un petit peu mon interprétation sur ce sujet-là.
Ok. Et comment est-ce que vous voyez les choses? D'abord, est-ce que ça vous inquiète que qu'on ne respecte pas les cycles et qu'il se passe exactement le contraire de ce qu'on attend, alors qu'on est sur des stimulus bancaires, des choses comme ça, et qu'en fin de compte, ça devrait presque être de l'économie mécanique où ça devrait se passer et ça se passe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inquiétant? Est-ce que vous vous dites qu'il y a des éléments macroéconomiques ou des éléments microéconomiques sous-jacents qui font qu'on a un manque de compréhension aujourd'hui ou qu'il y a des choses qui nous échappent? Et donc, s'il y a des choses qui nous échappent, on peut quand même se méfier et se dire que si jamais ça dérape, le dérapage va nous échapper aussi.
Alors, c'est pas en fait c'est perturbant parce qu'effectivement tout ce qu'on a appris dans nos livres d'école et d'université, on se rend compte, tiens, ça c'est pas comme on avait appris. Voilà, pourquoi ça marche, on avait appris parce que les banquiers centraux ont
On a
une
le
autre
son qui se dégrade de plus en plus. Déjà, il n'était pas très très bon. Et là, on a une vraie dégradation du son. Je me demande s'il ne faudrait pas que vous essayiez
dimension.
sans le micro, si c'est possible. Je me demande si ce n'est pas un problème de micro ou quelque chose comme ça. Mais parce que l'image est bonne.
Alors,
Voilà, désolé, c'est direct.
c'est direct. Essayez.
Essayez d'enlever votre micro et de vous servir du micro de l'ordinateur.
Est-ce que là, ça fonctionne mieux?
Beaucoup.
Beaucoup mieux. Bon, et eh bien voilà. Donc, parfait. Merci pour ce sujet. Alors, donc on en était. Oui, donc en fait, on est perturbé parce qu'effectivement, ça ne se passe pas comme avant. Pourquoi ça ne se passe pas comme avant? Parce que les banquiers centraux ont une. On fait preuve d'imagination. Hein. Personne ne m'a appris que les taux d'intérêt pouvaient être négatifs, que vous pouvez être payé pour prêter de l'argent. Donc, non, pour emprunter de l'argent, pardon. Et donc, c'est vrai que ça a perturbé pas mal de choses. On joue un petit peu aux apprentis sorciers en voulant se débarrasser des cycles, en étant obsédé finalement par les récessions, alors que les récessions, finalement, elles sont pas toutes graves, en fait. Hein. Finalement, même quand on regarde un peu les chiffres, il y a assez peu de récessions qui ont été très graves. La plupart du temps, les récessions, c'est un ralentissement économique. On a une économie qui est effectivement ralentie pendant 2 trimestres consécutifs, et après, ça repart, et il n'y a pas eu de drame particulier. Effectivement, c'est un peu perturbant. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de nos métiers, ce qui me fait dire que voilà, il faut effectivement qu'on s'adapte. Et c'est beaucoup plus facile en fait maintenant de s'adapter que de prédire la direction des marchés.
Donc on fait rien, on attend que ça se passe.
Non, je ne dis pas qu'on ne fait rien et qu'on attend que ça se passe, mais on attend d'avoir un peu plus de visibilité. Et effectivement, le prochain mouvement qu'il faudra faire, c'est un mouvement finalement pour essayer de capter cette baisse des taux. Et c'est pour cela que, avec des taux qui sont autour donc de 4% sur le 10 ans italien et pas tellement plus bas sur le 10 ans français, on retrouve finalement des emprunts d'État qui peuvent jouer leur rôle d'amortisseur. C'est la seule chose dont on peut se satisfaire en ce moment.
D'accord. Eh bien, on termine là-dessus. Il y a François Péningaud de Bloodwine qui nous a rejoint et on va parler du vin sous son aspect patrimonial. Et c'est comme ça qu'on clôturera notre saison. On ne boira pas en direct, mais on va, une fois n'est pas coutume, vous encourager à boire tranquillement chez vous une fois l'émission terminée. Merci beaucoup, David. Je vous rappelle et je l'annonce à tous nos auditeurs, la soirée Parlons Patrimoine aura lieu le 28 novembre. Bien sûr, on vous donnera des informations avant et on vous souhaite à tous un très bel été où on rediffusera les émissions qui ont été passés pendant l'année et retour en septembre. La date de retour n'est pas encore fixée, mais on la fixera bientôt et elle sera bien entendu communiquée. Très bel été, David, et puis j'espère que les nouvelles politiques ne vont pas nous le gâcher. À très bientôt. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de François Péningaud de Bloodwine. Alors, François, vous êtes parfaitement à votre place ici. D'abord, vous êtes un ancien financier. D'abord, je ne sais même pas si on dit un ancien financier. Il y avait Marc Fiorentino qui disait un trader ne meurt jamais. Est-ce qu'un financier meurt ou financier un jour, financier toujours? Vous en pensez quoi?
Banquier un jour, banquier toujours.
Voilà, banquier un jour, banquier toujours. Mais vous avez quand même décidé d'aller explorer d'autres horizons et de nouveaux horizons et de vous reconvertir dans le vin. Donc, vous vous êtes installé à Lisbonne il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça?
6 ans,
6 ans, et
exactement.
vous avez très très vite démarré une activité dans le commerce de vin, où vous vous êtes fait un nom et une réputation en diffusant, alors pas exclusivement, mais beaucoup ou essentiellement, vous m'arrêtez si je me trompe, des vins français, et en allant chercher plutôt dans le haut de gamme et plutôt dans les choses rares, spécifiques ou de qualité élevée. C'est bien ça?
C'est exactement ça.
Ok, super.
On s'est spécialisé sur l'importation de vin français et l'exportation de vin portugais, en allant chercher en fait des pépites, en important des marques qui n'étaient pas forcément nécessairement diffusées au Portugal,
mais toujours des choses de qualité. Et quand on parle de choses de qualité, il y a un attrait qui est assez évident, c'est aller chercher des pépites, des gens qui ne sont pas forcément connus, des domaines pas forcément connus, mais qui produisent des vins de qualité. Donc il y a forcément une corrélation entre la qualité et le prix. On va en parler sur l'aspect patrimonial notamment.
Voilà. Et alors, on va essayer de séparer un petit peu notre échange en deux. Dans le vin, comme dans l'immobilier ou même comme dans les actions et tout, on trouve deux composantes à ce qu'on va appeler le patrimoine. On trouve la composante de ce que ça va rapporter. Donc, un petit peu comme dans l'immobilier, on dit un immeuble de rapport. Donc, j'achète la bouteille et puis je revends la bouteille. Ça va vite. Et ça peut se faire. Et on a aussi un côté patrimonial où on dit, voilà, avoir dans sa cave Château-Aubrion de telle année, de toute façon, on ne perdra jamais d'argent. On pourra peut-être en gagner beaucoup ou ne pas en gagner beaucoup, mais ce n'est pas possible d'en perdre. On a la qualité, on a la rareté, on a la demande mondiale et on a des choses comme ça. Et on a aussi une production microscopique qui fait que il y en aura toujours. Donc on va essayer de séparer là-dedans. Ça tombe bien parce qu'on est un petit peu dans la période des primeurs, même si on va tout doucement vers la fin de la période des primeurs. On va en parler aussi, on va voir comment ça s'inscrit. Donc, bah, je vous laisse commencer. Là, j'ai beaucoup parlé et ça va être à vous de nous expliquer un petit peu.
Alors, vous évoquez les primeurs donc, qui sont assez spécifiques à Bordeaux. C'est un élément assez important, puisqu'en fait, la première question quand il s'agit d'acquérir du vin de manière patrimoniale, c'est comment je peux acheter du vin? Et en fait, il y a deux systèmes qui cohabitent. Vous avez d'un côté le système des primeurs, qui est un système traditionnel à Bordeaux, et qui est assez ancien. Quand je suis producteur de vin, je dois financer la récolte actuelle qui sera mise en bouteille d'ici 2 ans. Donc, il y a un système qui a été développé par la place de Bordeaux qui est de vendre la production qui n'est pas encore mise en bouteille à des prix généralement plus bas pour pouvoir financer tous mes besoins courants en tant que domaine. Et donc, ça, c'est un premier aspect, c'est l'aspect primeur. Donc, vous pouvez aujourd'hui acquérir des bouteilles de Bordeaux. Donc, on est aujourd'hui sur la période, sur les vins de 2023. Et bah, ce que vous disiez, c'est assez vrai. Vous avez un triple aspect sur ces primeurs qui vont faire que le prix va augmenter ou pas. Vous avez parlé de notoriété, donc des grands vins. Vous avez parlé de Château-Aubrion, Château-Lafite-Rothschild. Tous ces vins-là ont tendance à s'apprécier sur le long terme. Et ce, d'autant plus que si le millésime sur lequel nous sommes est un bon millésime. 2023 est un bon millésime, il n'y a aucun doute. 2023 suit 2022, qui est prédit comme le millésime du siècle. Donc 2022, les prix étaient extrêmement élevés. 2023, les prix ont tendance à baisser un petit peu. Et aujourd'hui, bah, vous avez les premiers crus de Bordeaux qui sont vendus à 20%, 30%, 40% moins cher que le millésime 2022.
Alors,
Donc
attendez,
oui,
je vous
c'est
arrête.
toujours une
Attends,
bonne
mais...
opportunité.
ouais. Alors là, je vous arrête. Donc, sur le côté, on va dire gustatif et plaisir, c'est sans doute une bonne affaire, puisqu'on va acheter une bouteille 20, 30, 40% moins chère, qui probablement dans quelques années sera aussi bonne pour 95% des êtres humains capables de déguster le vin. Et peut-être que des gens ayant une vraie capacité gustative verront une différence entre les deux millésimes parce que un sera meilleur de l'autre. Donc ça, c'est le côté plaisir et là je vous rejoins, c'est probablement maintenant qu'il faut un peu en acheter, surtout le vin qu'on aime boire et qu'on a envie de boire. Mais côté financier, si on revient sur cet aspect patrimonial, est-ce que de votre point de vue, il faut pas avoir peur et mettre le prix sur quelque chose qui on a une chance d'avoir l'année du siècle, ou plutôt assurer ses arrières et essayer d'acheter, comme on dit un peu vulgairement, du beau et du pas cher.
Alors, de toute façon, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue patrimonial, vous gagnerez l'argent, il y aura une valorisation des vins qui s'opérera sur des grands crus. Sur les vins que l'on boit tous les jours, il y a peu d'espoir d'avoir une valorisation très forte. Mais c'est là où aussi il faut faire la part des choses. On ne boit pas tous les jours du Lafite Rothschild. Par contre, si vous achetez un certain nombre de caisses, et que vous décidez d'en conserver une caisse pour vous et de revendre les autres caisses que vous avez achetées, ça peut être un placement intéressant. Mais ce n'est pas un placement qui sera rentable chaque année. Mais sur des grands châteaux, vous avez une probabilité non négligeable d'avoir une valorisation régulière. Mais ceci dit, vous parliez de finances quelques minutes auparavant. Il faut voir que le marché du vin est aussi lié à pas mal d'éléments qui sont pas directement liés au vin. Je parlais de la qualité du millésime, ça c'est important, mais vous avez des choses qui sont liées aussi aux conditions financières globales. Et aujourd'hui, si vous regardez sur un an, 2 ans, sur 5 ans, vous avez une baisse assez notable des vins, notamment à Bordeaux, mais pas seulement, pour des raisons simples. C'est que vous avez énormément d'investisseurs qui achetaient des grands vins. Quand les taux étaient à zéro, financer des vins, c'est pas très compliqué. Quand les taux passent à 4-5%, il faut être capable de financer ces acquisitions. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, avec des taux à 5%, c'est moins intéressant d'acheter des grands vins de Bordeaux qui, même s'il y a une certaine appréciation, faut payer le financement de ces acquisitions. Donc ça, c'est un élément important. Vous avez un élément aussi macroéconomique, puisque un des grands débouchés pour les grands vins, c'était la Chine et les États-Unis. Si vous avez, comme on a eu le cas il y a quelques années, une taxe à l'époque de M. Trump qui taxe les vins de 25%, la demande baisse. Donc forcément, ça a un impact sur le prix du vin et le potentiel d'appréciation des grands vins. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Et dans un patrimoine, souvent, les gens pensent que le prix des vins est décorrélé des marchés financiers. C'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Et si demain, vous avez une crise économique, les prix des vins et même des grands vins vont avoir tendance à baisser. C'est le cas, je parlais tout à l'heure des vins de Bordeaux qui ont baissé d'une quinzaine de pourcents sur un an. Mais après, vous avez une différenciation entre les différentes régions. Typiquement, vous l'avez constaté, j'imagine, depuis quelques années, les champagnes ont eu tendance à exploser en termes de prix, que ce soit le champagne que vous buvez au quotidien ou que ce soit les très, très grands champagnes. Donc, il faut être
Pourquoi?
aussi assez sélectif.
C'est juste une question de
Pourquoi? Parce
consommation,
qu'en
parce que la consommation a monté.
La consommation a monté et donc vous avez eu un effet de rareté. C'est-à-dire que à production égale, si la consommation explose, comme les vins de champagne sont faits sur un certain nombre de millésimes, puisqu'en fait c'est un mélange de récoltes sur plusieurs années, si vous avez un stock qui diminue, parce que la consommation est très forte, vous avez moins de champagne, donc naturellement le prix du champagne a tendance à monter. Et ça, c'est un élément qui a joué pendant la crise du Covid. Il y a une surconsommation de champagne. Donc, les vins de réserve qui sont nécessaires pour constituer les champagnes ont été en forte baisse. Et vous avez certains producteurs qui n'avaient plus les moyens d'assurer une production aussi importante. Après, vous avez des éléments climatiques. Vous prenez le cas de la Bourgogne. Quand vous avez du gel 2 années de suite et que vous perdez 40% de votre récolte, ben là, on crée un effet rareté parce que même un domaine moins prestigieux que certains a moins de vin, donc va avoir tendance à le vendre beaucoup plus cher. Et ça, c'est un effet qui est incontournable. Si vous prenez des exemples bourguignons, la Romanée-Conti, ça fait rêver tout le monde. Aujourd'hui, la Romanée-Conti produit 5 000 bouteilles. Donc, cet effet rareté fait que le prix explose de manière totalement naturelle. Sur le champagne, j'ai expliqué, la Bourgogne, c'est un peu le même phénomène. Et après, si on revient sur l'aspect patrimonial, ce qui est intéressant, évidemment, les premiers crus, les grands crus, sont des vins qui auront tendance à se valoriser sur une longue période. Ça, c'est à peu près naturel. Par contre, ce qu'il faut s'attacher à faire, c'est à trouver les prochaines pépites, les prochains grands producteurs, les prochains grands domaines qui vont fortement se valoriser. Et si vous regardez même à Bordeaux, vous avez des châteaux, je peux citer les Carmaux-Brion, qui, sur un millésime 2022 qui était exceptionnel, en l'espace d'un an, a pris un peu plus de 50%. Donc ça, ce n'est pas un nom qui fait partie des noms les plus courants, les plus connus,
Donc ça, c'est
mais
pour un
qui,
Haut-Brion
par la crise.
qui auraient été achetés en primeur en 2022?
En primeur. Exactement. Vous avez quand même des pépites comme ça, des domaines qui, de par leurs investissements sur la qualité de la production, sur la qualité des œnologues qui sont rattachés au domaine, font que certains domaines deviennent des domaines qui sont reconnus des amateurs, des sommeliers. Et donc, ça, c'est des choses à suivre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que finalement, vous retrouvez. C'est un peu comme quand vous achetez des actions. Vous allez acheter les grands titres, les grands indices, mais vous pouvez aussi aller vous attacher à trouver une pépite qui est le futur, on va dire, Apple. Et dans le vin, ça existe encore. Et vous avez quand même toute une génération de nouveaux vignerons qui produisent des vins de qualité. Donc, ils n'ont pas la notoriété au départ, ce ne sont pas des marques, mais ce sont des gens qui vont produire de la qualité et qui vont avoir la capacité d'avoir des vins qui vont se valoriser. Mais la réalité du marché, si on regarde d'un point de vue uniquement patrimonial, c'est que les échanges sur les vins se focalisent sur les grands crus. Et d'ailleurs, vous le voyez, si vous regardez les ventes aux enchères, vous retrouvez que des grands noms, Latour, Pétrus, etc. Mais la réalité, c'est que d'un point de vue patrimonial, je pense que c'est extrêmement intéressant de regarder des châteaux, des vignerons qui sont un petit peu des gens qui vont devenir les futurs stars.
Donc
Ça, c'est important et c'est aussi si on
le
a
modèle,
un.
c'est on achète en primeur et on revend aux enchères, c'est ça?
Aux enchères, où vous avez maintenant des sites spécialisés qui vous rachètent les vins, c'est des sites transactionnels entre professionnels. Après, vous pouvez revendre votre particulier. Après, il faut toujours, surtout quand on est acheteur, faire attention de la provenance des vins, parce qu'il y a quand même une partie de vins. On peut parler de fraude, ça arrive. Il y a eu des exemples assez connus. Mais l'idée, c'est vraiment d'acheter pour revendre. Parce que le vin, c'est avant tout un plaisir. Donc, si on peut se permettre d'acheter certains grands vins, en boire une partie, en revendre une partie, bah, ça permet de financer finalement, sa consommation en très grand vin. On ne boit pas tous les jours, mais ça peut être aussi des moments de partage et d'émotion assez importants. Donc, ça, c'est. Vous avez aussi les allocations. Donc, les allocations, c'est typiquement en Bourgogne. Vous ne pouvez pas acheter tous les grands domaines bourguignons sauf avoir des allocations. Ça, généralement, vous passez par des professionnels qui peuvent avoir des allocations, que ce soit en Bourgogne, que ce soit côté Rhône. Ça, c'est relativement intéressant. Donc, ce n'est pas un marché qui est facile d'accès parce que les quantités, la rareté est là, mais vous avez même parfois capacité à avoir 6 bouteilles, 12 bouteilles. Et en boire une, c'est quand même un moment exceptionnel. Et après, le reste, vous pouvez les revendre à l'unité, effectivement.
Alors, si on passe maintenant sur la matière elle-même, qu'est-ce que vous conseilleriez d'acheter en primeur 2023?
Primaire 2023, moi, je suis assez Clermont-Brion. Je pense que c'est un domaine qui reste à des prix relativement raisonnables. Et on se retrouve avec des vins qui vont de toute façon se valoriser. Tous les grands châteaux, parce que c'est vrai qu'entre 2022 et 2023, un Aubryon qui est à moins 30, moins 40%, ça reste toujours intéressant. Après, vous avez, honnêtement, si vous aimez le vin, tous les Bordeaux qui sortent aujourd'hui, 2022, 2023, qui sont des très bons millésimes, mais dans tous les cas, je pense qu'on a eu sur la période récente une qualité qui est indéniable, quels que soient les vins. Et ça, il faut le signaler. Autant à une époque, on pouvait se poser la question sur quelques domaines qui étaient de qualité moindre. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive. Et notamment avec le réchauffement climatique, vous avez énormément de domaines qui ont investi sur une capacité à générer des vins de qualité chaque année.
Et
Et
on entend beaucoup que Bordeaux a de plus en plus de stocks et qu'ils ont de plus en plus de mal à vendre. Alors non pas dans les grands crus, où là, de toute façon, la demande est supérieure à l'offre, mais on va dire dans l'intermédiaire.
c'est assez naturel. En fait, il y a eu deux phénomènes. Vous avez eu un phénomène de Bordeaux bashing, Puisqu'en fait, vous avez notamment la génération des plus jeunes consommateurs qui est partisane de vin naturel. Vin naturel, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quelque chose qui est important, c'est que les consommateurs demandent de plus en plus des vins avec le moins en moins d'intrants chimiques. Donc ça, c'est plutôt le côté intéressant pour la santé au niveau global. Et c'est vrai que Bordeaux a eu du mal dans ce contexte-là, parce que Bordeaux a été naturellement un petit peu réfractaire à mettre en avant des concepts comme le bio, etc. Mais vous prenez des très grands vins comme Pont-et-Canet, ils sont bio, ils font pas une communication par-dessus, mais ils sont totalement bio. Et après, c'est vrai qu'en Bordeaux, c'est plus compliqué de vendre, parce que vous avez aussi une surproduction. Aujourd'hui, on le voit très très bien. Vous avez des aides d'État qui vont se mettre en place. Il y a une crise à Bordeaux parce que les volumes sur les vins courants est devenu excessivement élevé. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui commencent à retirer des vignes, à arracher des plants entiers de vignes pour réduire justement cette production qui était devenue un petit peu trop élevée par rapport à la demande globale. Et quand je parle de demande globale, on a une demande mondiale. Donc la demande mondiale, elle s'applique au vin français. Mais pas seulement. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu l'effort production en termes de qualité, en termes de prix, vous avez notamment des vins italiens ou des vins américains qui ont pris une place assez importante dans l'univers des connaisseurs de vin.
D'accord.
Donc, c'est vrai que c'est compliqué.
Et ça, cet excès de production, c'est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve absolument pas en Bourgogne et en Champagne.
Non. Pour une double raison, c'est que Bourgogne-Champagne, les récoltes ont été beaucoup plus faibles, que les domaines sont extrêmement limités, puisqu'en fait, si vous prenez l'exemple de la Bourgogne, vous avez des parcelles qui sont nommées, etc. Donc, on ne peut pas avoir une extension de la production en Bourgogne. Aujourd'hui, le seul relais de croissance possible, potentiel, c'est au sud de la Bourgogne, donc des vins moins prestigieux. Et là, vous trouvez des vins beaucoup plus abordables. Donc, le sud de la Bourgogne permet d'avoir aussi des vins de qualité à des prix moindres. Mais rappelez-vous, on a parlé à une époque du Languedoc, qui était en fait une région qui produisait des vins de piètre qualité. Parce
C'est
que c'était.
fini, ça.
Voilà. Aujourd'hui, vous avez des domaines. Vous avez des domaines, la Grange des Pères pour pas citer, Massagassac, Montcalmès, vous avez énormément de domaines qui ont, ce que j'expliquais tout à l'heure, investi sur la qualité. Et aujourd'hui, vous avez des grands vins du Languedoc, donc vous retrouvez des grands vins dans toutes les régions. Après, la demande globale s'adapte aussi parce que tout le monde ne boit pas des grands crus pour des raisons évidentes. Mais aussi, vous avez envie d'avoir des vins un petit peu différents. Et c'est ce qui fait le charme du domaine viticole en France, c'est que vous avez des régions qui aujourd'hui produisent des vins d'exception à des prix relativement raisonnables. Et ça, c'est nouveau. Et ça vient faire concurrence au Bordeaux supérieur. Et c'est ce qui crée un peu une certaine difficulté pour les Bordelais à écouler leur production.
Ok, donc on a vu ce qu'il fallait acheter pour garder, pour faire une bonne affaire. Et qu'est-ce qu'il faudrait acheter aujourd'hui pour faire une bonne affaire, mais une bonne affaire gustative? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans vos dernières recherches qui est vraiment sous-coté en termes de prix par rapport à la qualité?
Moi, je trouve que si on aime le vin, on aime le Bourgogne, mais aujourd'hui, ça devient excessivement compliqué de pouvoir en acquérir, d'en acheter à ces prix-là. Vous avez plein de domaines dans chaque région, hein, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Languedoc, vous avez des vins à des prix raisonnables. Et je pense qu'on a un plaisir qui est indéniable. Vous avez aussi toute la partie Rhône qui produit des Syrah qui sont absolument magnifiques. Après, le vin, moi, c'est ce que je dis souvent, le vin, c'est relativement simple, c'est j'aime pas. J'aime, je suis capable d'expliquer un petit peu pourquoi, mais je pense que chacun doit pouvoir trouver son bonheur. Aujourd'hui, vous allez sur la Loire, par exemple, vous avez des Cabernet Franc qui sont absolument magnifiques, qui en plus sont relativement plus légers en termes d'alcool. C'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes régions viticoles produisent des vins à 14-15 degrés. On est en train d'en revenir sur des choses plus légères, plus agréables. Mais globalement, je pense que chaque région a son charme. À Bordeaux, je pourrais vous parler du château Brandberger, qui est un château, un Bordeaux supérieur, qui produit des vins d'exception en termes de rapport qualité-prix. Quand vous avez des Bordeaux à 15 euros, très honnêtement, vous avez un plaisir qui est indéniable. Si vous allez sur le Languedoc, vous avez domaine de Montcalmès, vous avez des vins sans produits, ou domaine des Crest, qui sont des vins produits à des prix autour de 20 euros, sont des choses magnifiques. Et l'avantage de ces vins, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a connu à une certaine époque où on cherchait des vins de garde absolument, vous avez beaucoup de domaines qui produisent des vins que vous pouvez boire aujourd'hui sur des millésimes qui ont 2, 3, 4 ans, mais que vous pouvez aussi garder sur une période beaucoup plus longue. Et ça, c'est le charme, je dirais, du vin, c'est que vous avez eu une forte proportion des consommateurs qui ont refusé à un moment donné de dire ben, moi je vais attendre que mon vin se bonifie en attendant 10, 15, 20 ans. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent et qui fait que tous les domaines aujourd'hui sont capables de produire des vins que vous pouvez boire relativement jeunes. Bordeaux, c'est le cas. Tous les Bordeaux que vous retrouvez en second vin sont des vins qui sont abordables au bout de quelques années. Les premiers vins doivent être bu au bout de 10-15 ans en fonction des millésimes, mais les seconds vins sont des vins plaisir que vous pouvez aborder dès aujourd'hui. Et pour répondre un peu à votre question, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les seconds vins de Bordeaux, on n'en parle jamais. Mais les seconds vins de Bordeaux sont vraiment excellents, peuvent être bu excessivement plus rapidement que les grands crus. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des choses qui sont faites avec une qualité qui est absolument magique. Parce que c'est le même savoir-faire que les grands crus, mais sur des vignes plus jeunes, donc moins de complexité, mais des choses que vous apprécierez de manière évidente.
Super. Bah, écoutez, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je vais juste vous poser une question précise et vous demander une réponse précise. Vous m'avez pas donné de nom par rapport à quelque chose où ce serait vraiment intéressant de l'acheter maintenant et de le boire maintenant ou l'année prochaine parce qu'il y a un vrai effet prix-qualité. Vous m'avez parlé de goût, vous m'avez parlé de personnalité, vous m'avez parlé de si on trouve bon, si on trouve pas bon. Allez, mais quelque chose qui vous tient à cœur, une belle surprise, un vin que vous avez récemment acheté ou récemment vendu et vous vous dites, il est vraiment pas cher pour ce que c'est.
Je vais citer les Camembrion. Je suis très fan, mais je pense que la critique est devenue très fan aussi. Donc le vigneron qui s'appelle Guillaume Poutier a été choisi par le Figaro comme le vigneron de l'année. Je pense qu'ils ne sont pas trompés. Après, si vous allez en Bourgogne, typiquement, moi je suis très très fan des vins de Pierre Girardin, qui est un gamin, on peut le dire, qui a 25 ans. Qui produit des vins absolument fabuleux. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui m'intéresse, c'est trouver des pépites, des talents qui font des vins et qui continuent à faire des vins qui sont absolument magnifiques toutes ces années qui viennent.
Super, eh ben, ce coup-ci, vous voyez, on se quitte pour de vrai. On a nos noms, on a nos choses. Donc, je rappelle, Blood Wine, on est à la radio, c'est toujours compliqué de noter. Mettez Blood Wine Lisbonne sur Google et vous arriverez directement chez François. Et autrement, dans les podcasts, vous retrouverez les coordonnées. Merci beaucoup, à très bientôt. Et même si on est un peu en avance, c'était la dernière émission de l'année, je vous le rappelle. Passez tous un très bel été. À très vite, au revoir.